Bonjour, vous écoutez France Culture, excellente journée à tous. À 7h, vous retrouverez Pierre Assouline pour première édition, avec à 7h45 le billet de Jean-Louis Hésine et 7h57 la chronique de Dominique Schnapper. L'éloge du savoir. Les conférences de la Bibliothèque nationale de France. La conférence que vous allez entendre a été donnée à la Bibliothèque nationale de France le lundi 3 juin 2002 par Jean-Claude Carrière. Elle s'intitule « Le scénariste, conteur d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'art de la narration, en particulier au cinéma ?»
L'art de la narration fictive, l'art de raconter « Il était une fois une femme qui, une princesse que, un roi dont » est évidemment très vieux. Est-il aussi vieux que le monde? Nous n'en savons rien, nous n'étions pas là. Mais c'est une question qui s'est longuement posée et que j'ai longuement étudiée dans la préface du Cercle des Menteurs. En effet, il semble que les récits des origines, dans toutes les traditions que nous pouvons connaître aujourd'hui, ce qu'on appelle les mythes, qui vient du mot grec mythos, qui signifie récit, narration, et qui sont les récits originels de tel ou tel peuple, qu'il se raconte comme le récit fondateur, le récit qui dit à tel peuple, voici comment tu es apparu, voici pourquoi tu vis sur cette région de la terre, et voici comment tu dois te comporter. Ces récits n'ont jamais été considérés comme inventés. Ils n'avaient pas d'auteur. Ils étaient tombés du ciel un beau jour. Par exemple, les Védas indiens sont le fruit de très lents mouvements harmoniques du cosmos qui ont duré des milliards et des milliards d'années. De ces mouvements sont nés des sons. De ces sons sont nés des voyelles. De ces voyelles, dont la première est évidemment « Aum », de ces voyelles sont nés des mots, de ces mots sont nés des phrases, qui sont les phrases du Veda, et qui par conséquent ne peuvent pas être remises en doute. Elles disent la vérité puisqu'elles sont nées du cosmos auquel nous appartient. Pour qu'il y ait fiction et invention, il faut qu'il y ait un auteur. Il faut qu'il y ait un jour un menteur, comme je les appelle, qui, au sein même du groupe auquel il appartient, de sa tribu, dise je vais vous raconter une histoire. Et il est tout à fait probable que les premiers menteurs ont été des personnages considérés comme marginaux, dangereux, apportant dans la société des éléments extérieurs pouvant semer le trouble, la confusion, qui n'étaient pas la vérité du mythe. C'est pour cela que dans beaucoup de traditions, au moins dans les traditions solidement établies que nous pouvons connaître aujourd'hui, au récit mythique succède toujours le récit épique. Les poèmes homériques, le Mahabharata et le Ramayana indien, qui sont une sorte d'étape intermédiaire où déjà apparaît ce que l'on peut appeler un auteur, ou tout au moins quelqu'un qui a organisé la parole qu'il est en train de raconter, nous disons nous un naed, un poète aveugle, qui dans le Mahabharata ne sait pas écrire, il a besoin de l'aide d'un dieu pour venir rédiger ce qu'il sait, mais il présente toujours ce poème comme une histoire vraie. Il le présente comme le moment où certains héros sont nés, sont des demi-dieux, exactement comme dans les poèmes homériques, la plupart des héros sont de père ou de mère d'origine divine, céleste, l'autre parent étant d'origine terrestre. Et le poème épique a pour fonction essentielle de raconter ce moment dans la vie humaine, dans la vie des sociétés, où le ciel commence à être oublié, où l'origine céleste des humains et relégué dans un passé lointain et où, en quelque sorte, les hommes coupent le fil qui les reliait au ciel et se plongent la plupart du temps à la faveur, comme dans le Mahabharata, comme dans l'Iliade, d'un énorme conflit, se plonge dans ce que les Grecs ont appelé à cette époque-là les problemata, c'est-à-dire les problèmes sanglants de la terre. Là apparaît déjà la première forme de l'auteur qui, par la suite, tout de suite après, c'est le cas dans la tragédie grecque, va devenir l'auteur proprement dit, celui qui va proposer des histoires et qui compte encore des personnages historiques parmi leurs personnages, mais qui bientôt deviendront, comme c'est le cas d'Aristophane, des histoires totalement inventées. Donc l'auteur n'est pas le menteur, la femme ou l'homme de fiction ne sont pas forcément nés en même temps que les sociétés humaines. C'est la première chose que je voulais dire. Et bien entendu, il y a eu des narrations de tout temps, et même des narrations de différents types. La première est une histoire de type Gil Blas de Santillane ou Justine ou Les Malheurs de la Vertu de Sade. C'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune fille part de son village et il lui arrive un certain nombre d'aventures. C'est-à-dire c'est une histoire discursive, faite d'épisodes qui se succèdent. Le narrateur principal peut soudain s'arrêter au coin de la route, voir venir quelqu'un, se demander si ce quelqu'un a une histoire intéressante à raconter et l'écouter en partageant avec lui un quignon de pain et un morceau d'oignon, etc. C'est ce qu'on appelle en espagnol le roman picaresque, mais qui trouve dans le Mahabharata par exemple et dans d'immenses récits chinois, japonais, indiens d'autrefois, des modèles absolument parfaits d'une histoire qui en réalité n'a ni commencement ni fin, sur laquelle peuvent se greffer des quantités d'épisodes, dont les exemples les plus illustres sont par exemple Don Quichotte pour nous, sont Tom Jones et la plupart des romans anglais du XVIIIe siècle, et qui trouvent encore dans le cinéma aujourd'hui des phénomènes comparables. C'est ce qu'on appelle par exemple le road movie, c'est-à-dire quelqu'un qui part sur sa moto pour traverser les États-Unis et à qui il arrive un certain nombre d'aventures. Ce modèle-là est aussi ancien sans doute que la narration. Et pour nous, conteurs d'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant, devant tel ou tel film, d'essayer de retrouver les sources anciennes, d'où il vient et comment il s'est adapté au public et au mode de récit d'aujourd'hui. Et puis il y a exactement le contraire, et cela dès la tragédie grecque, c'est-à-dire il y a une histoire resserrée en très peu de temps, très peu de personnages, qui culminera par la tragédie classique française, c'est-à-dire qu'en un lieu, qu'en un jour, comme vous savez, comme l'a dit Boileau, un seul fait accompli tiennent jusqu'à la fin le théâtre rempli, c'est-à-dire au contraire une action très artificiellement resserrée dans un lieu, dans un jour et avec un seul élément d'intérêt dominant. Entre les deux, par exemple, La Corde de Hitchcock, pour prendre un film célèbre, est exactement de ce type-là. Je prends à dessein des exemples dans des films. Très souvent, les films combinent ces deux traditions. Donc, toute façon que nous ayons de raconter une histoire est ancienne, y compris le flashback. N'oublions pas que l'Odyssée d'Homère est en grande partie un flashback. Ulysse raconte ses aventures quand il a été recueilli par le père de Nausicaa, etc. Donc nous n'avons rien inventé, nous avons quelquefois aménagé, redécouvert, changé tel ou tel procédé, mais si la narration consiste à établir un rapport, comme nous le faisons en ce moment, entre un public et quelqu'un qui raconte, ce rapport-là est très ancien et n'a probablement pas changé dans sa forme fondamentale, sinon peut-être par l'apparition d'un micro. Mais ce qu'il faut dire en même temps, c'est que nous avons traversé un siècle, le 20e, qui est le premier siècle, depuis toujours, à avoir inventé de nouveaux langages. Je trouve que on n'a pas assez insisté sur cet aspect du 20e siècle. Il a inventé beaucoup de choses, et pas toutes admirables, comme vous savez, mais il est le premier à avoir inventé un certain nombre de nouveaux langages, c'est-à-dire de nouvelles façons de nous communiquer entre nous telle ou telle idée, telle ou telle émotion, tel ou tel sentiment, telle ou telle histoire. Le premier de ces langages a été le cinéma. Le cinéma muet d'abord, tout à fait à la fin du 19e siècle, mais il ne faut pas oublier qu'il a été suivi très peu de temps après par l'enregistrement sonore des premiers rouleaux et puis des disques, ensuite par la radio, qui qui a joué un rôle absolument capital et continue à jouer. Ensuite, par le cinéma devenu parlant. Ensuite, par la télévision. Et enfin, par tout ce que nous appelons les images nouvelles, images de synthèse, qui est un territoire qui m'a toujours fasciné et passionné, et qui est en plein développement. Tous ces langages n'existaient pas il y a 110 ans. Il y a 110 ans, un auteur, comme je peux l'être, avait le choix entre deux moyens d'expression et deux seuls. Il avait le choix entre le livre, imprimé, publié, et le théâtre. C'était les deux seules possibilités qui lui étaient offertes. À partir de la fin du 19e siècle, il a pu devenir scénariste de cinéma, je parle uniquement de fiction, auteur de radio, de télévision, d'images de synthèse, etc., avec le prodigieux bouleversement que nous connaissons en ce moment dans le cinéma dit d'animation, que l'on croyait défunt et qui, grâce aux techniques nouvelles, retrouve une exubérance tout à fait extraordinaire. Alors, cette apparition de langage nouveau et de nouvelles façons de nous parler entre nous a, comme d'habitude, deux conséquences dangereuses, immédiates, et auxquelles nous devons prendre garde. La première, c'est que toute expression nouvelle prétend aussitôt remplacer les anciennes et les expulser. Et ça a été le cas du cinéma. Ça a été le cas du cinéma qui, dans les années 30, dans la plume de gens comme Jean Epstein ou d'autres, s'est affirmé l'art total, l'art du XXe siècle, rassemblant aussi bien la peinture que la musique, que la dramaturgie, que le théâtre, et qui, très très vite, allait éliminer les autres formes d'expression. Inutile de vous dire que cela ne s'est pas passé, que le cinéma a trouvé sa place parmi les autres, et il paraît s'y maintenir, et que, simplement, on a joué un peu des coudes, on s'est écarté pour lui faire une place qui maintenant est la sienne, ce qui n'est déjà pas si mal. La même chose, il y a 10 ans, a été dite des images de synthèse. Tout à coup, on assistait à d'extraordinaires délires, comme on a pu en voir dans le domaine de l'économie, par exemple, avec la nouvelle économie, disant que ça n'était fini de tout le reste et que maintenant, grâce aux prodiges que l'on voyait s'effectuer dans les nouvelles façons de faire des images, dans les nouveaux ordinateurs, etc., on allait pouvoir se passer de tout le reste, y compris recréer la vie, l'apparence, etc. Vous savez ce qu'il en est, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que on utilise maintenant les images de synthèse dans de nouveaux trucages, qui d'ailleurs commencent à être lassants, on s'en rend compte quand il n'y a que cela, et même maintenant, on voit des cinéastes revenir à des trucages à l'ancienne et dire, les trucages électroniques, il faut s'en méfier, parce que ça se voit très vite, ça fait faux, il faut les introduire avec beaucoup de discrétion. J'ai même entendu un metteur en scène dire, il faut les utiliser comme s'ils étaient des trucages anciens. Donc, on en revient, mais cela se passe en quelques années. Voilà. Donc, c'est donc le premier danger. Le second, qui est plus subtil, c'est que toute technique, quand elle apparaît, très brillante, souvent, très extraordinaire et presque miraculeuse, a tendance à se passer de la pensée, toujours, et à dire que la technique va suffire à exprimer le monde, à exprimer le sentiment, tout ce que nous avons envie de dire, de raconter ou de recevoir. Que la technique va pouvoir se passer de la pensée, c'est-à-dire de l'imagination et de l'invention humaine. Et que, grâce à des mots magiques, comme interactivité, par exemple, que nous avons entendu utiliser à toutes les sauces, on va bientôt pouvoir se passer des auteurs, des conteurs, des scénaristes. Et cela conduit, par exemple, un certain nombre de cinéastes, je n'en citerai pas, mais il y en a un très très récent qui vient de se ramasser pour cette raison-là, à croire qu'en mettant tout simplement des interprètes devant la caméra, en leur donnant à peine quelques éléments de situation et en leur disant « Allez-y, lancez-vous dans un couloir de métro et improvisez », on va avoir une scène qui sera débarrassée des artifices habituels du cinéma. J'ai entendu dire ça. On va avoir une scène vraie, une scène qui ne sera pas joué, qui ne sera pas maquillé, on va s'approcher de la vérité. En réalité, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est plus artificiel que l'artifice, car les comédiens sont loin d'oublier qu'il y a une caméra d'un côté, donc se conduisent absolument pas comme dans la vie, ils savent très bien qu'ils sont filmés, et de l'autre côté, comme ils n'ont rien d'intéressant à dire, rien d'intéressant ne se passe sur l'écran à ce moment-là. Donc, cette tentation d'une technique se passant de la pensée d'un ou de plusieurs auteurs est un des dangers qui a guetté le scénariste, et j'en viens à lui, tout au long du XXe siècle. Qu'il soit un des conteurs d'aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Je parle bien entendu du scénariste de fiction. Il y a aussi un très grand cinéma documentaire et de reportage, et même à l'intérieur du documentaire, il y a des scénaristes. Car il y a, et ça m'est arrivé, il arrive que l'on fasse un scénario pour un documentaire. Car un scénario, c'est aussi une mise en ordre du réel. On sait ce qu'on va filmer, d'avance on prévoit ceci ou cela, on fait un pré-scénario et en fonction de ce qu'on a filmé, on corrige ce scénario et on l'adapte au matériel dont on dispose. Mais je ne parle ici que du scénariste qui écrit une œuvre de fiction. Alors d'abord, il faut dire que deux évidences, que ce scénariste appartient à ce qu'on appelle les arts de représentation. Il y a dans l'expression une grande distinction qui est très ancienne et qui valait autrefois pour le livre et pour le théâtre et qui vaut encore aujourd'hui, qui est d'un côté un art de communication simple qui est le livre. Si j'écris un livre aujourd'hui et si je le donne à lire à une dizaine de personnes parmi vous et si vous me faites l'honneur chacun ou chacune d'entre vous de le lire, aucun d'entre vous ou aucune d'entre vous ne va lire le même livre. C'est-à-dire, vous allez tous vous arrêter à un endroit différent, vous allez le lire dans des circonstances, dans des endroits différents, vous allez sauter telle page, relire telle autre page. Le livre va se transformer dans chacun de vous. Et la relation, très souvent étudiée par des critiques comme Borges ou Genette tout au long du XXe siècle, cette relation est personnelle, c'est-à-dire que le lecteur contribue chaque fois à la fabrication du livre qu'il lit et le fait sien. C'est pour ça qu'on a pu défendre dans la critique littéraire du XXe siècle des paradoxes comme celui de Borges, par exemple, disant l'influence de Cervantes sur Kafka est bien connue. Celle de Kafka sur Cervantes est moins connue, mais elle n'en est pas moins aussi importante. Alors pourquoi ? Comment se fait-il que Kafka ait influencé Cervantes ? Parce que tout simplement, si je lis Kafka, moi lecteur, avant de lire Cervantes, inévitablement, ce que j'aurai reçu de la lecture de Kafka influencera ma lecture de Cervantes. Et par conséquent, de façon directe et palpable, Cervantes sera influencé par Kafka à travers moi. Ça, c'est donc une façon que je laisse provisoirement de côté, ce n'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui. Et à côté de cela, il y a les arts de représentation, théâtre, cinéma et, disons, télévision de fiction. La grande différence est que là, nous nous trouvons à l'arrivée devant un public. C'est-à-dire qu'un public dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre ne peut pas demander, personne dans la salle ne peut demander aux acteurs de s'arrêter, de recommencer, ou d'aller plus vite, ou de sauter telle scène, etc. Le public est un tout. Il reçoit la représentation, au vrai sens du mot, rendre présent, représentation, le même jour, et tout ensemble. Donc on ne peut pas comparer du tout cette réception à celle d'un livre. Et l'autre différence fondamentale, c'est que le texte écrit, qui sert de support aux arts de représentation, la pièce de théâtre, le scénario de cinéma, est au début, au point de départ, d'un processus technique de changement qui va le conduire à un état différent à l'arrivée. C'est-à-dire que la pièce jouée par des acteurs n'est plus du tout la pièce que nous pouvons lire quand elle est écrite et imprimée. C'est autre chose. Un processus a été engagé sous la direction d'un metteur en scène, avec l'aide de comédiens, de décorateurs, de maquilleurs, d'éclairagistes, etc., pour transformer le texte initial en un spectacle, en une représentation finale. La même chose dans le cinéma, avec cette différence que le processus est encore plus compliqué dans le cinéma, parce qu'il met en œuvre beaucoup plus d'apparats techniques, beaucoup plus de machines, beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de techniciens, et qui se termine même par une opération très complexe que l'on appelle le montage. Donc, le scénariste appartient aux arts de représentation. Et la conséquence immédiate, c'est le deuxième point, disons, des évidences que je voudrais, quelques évidences que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que pour écrire pour le cinéma, un scénariste doit nécessairement et impérativement connaître toutes les techniques du cinéma. Il est un auteur de cinéma. Il n'est pas un auteur de roman. Il doit savoir quand il écrit telle ou telle situation, un personnage traverse le pont, etc., s'arrête, regarde en l'air, laisse tomber quelque chose dans la scène, tout ce que vous voudrez, il doit savoir comment ce qu'il écrit va devenir un film. C'est-à-dire comment les phrases qu'il formule vont devenir une œuvre cinématographique. Il doit savoir comment on va le filmer, combien de temps ça va durer, quelle force, quel impact cela va prendre à tel ou tel moment dans le film. Il doit même, à la limite, savoir combien ça va coûter. Un scénariste sait parfaitement qu'il n'a pas le droit d'écrire une scène qui dure moins d'une journée de tournage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire une scène qui ne durerait qu'une demi-journée de tournage, parce que le reste de la journée serait perdu dans ce qu'on appelle le mouvement des équipes, c'est-à-dire le déplacement des techniciens d'un lieu à un autre, plier le matériel, le déplier à un autre endroit. Il y aurait une demi-journée de perdu, c'est intolérable. Donc il sait qu'il faut grouper le plus grand nombre de scènes possible dans le minimum de décors possible, limiter les scènes de nuit à l'extérieur, parce que ça suppose une journée de récupération syndicale le lendemain. Je vous dis des détails triviaux, mais qui sont extrêmement importants au moment où on écrit le scénario. Et dans ce cas précis, ne jamais écrire une scène que le metteur en scène pourra tourner en 3 heures. Au contraire, il faut développer cette scène pour qu'elle occupe toute une journée dans le plan de travail. Donc il doit savoir comment ce qu'il écrit va devenir une œuvre cinématographique. Et cela a, à mon avis, deux conséquences immédiates. La première, c'est que, et c'est ce que je pourrais appeler le premier paradoxe, il y en a deux, le premier paradoxe du scénariste, c'est qu'il travaille, et il est peut-être le seul auteur dans ce cas, il travaille dans l'éphémère. Il travaille dans quelque chose, il écrit quelque chose qui va être détruit. Il va devenir autre chose. À la fin d'un tournage, on trouve les scripts dans les poubelles des studios. Leur existence est terminée, leur usage est accompli, ils sont devenus un film, ils n'ont plus de raison d'être. Autrement dit, tout le travail du scénariste, il doit savoir que c'est la poubelle qui l'attend. Et il en est ainsi. Il travaille dans le film, c'est le plus grand et le plus difficile des paradoxes à admettre. Il écrit quelque chose avec des phrases et des mots qui n'est pas destiné à rester, qui n'est en aucun cas destiné à être publié et qui, au maximum, aura une centaine de lecteurs, c'est-à-dire, grosso modo, les membres de l'équipe, quelques producteurs et distributeurs à qui on aura fait lire le scénario pour le vendre. Il travaille dans l'éphémère et j'ai souvent, de ce point de vue, parce que c'est quelquefois très difficile pour des jeunes étudiants de cinéma qui veulent être scénaristes de leur faire admettre que leur travail va finir, on va le jeter, on s'en fout, à la fin il n'a plus d'importance. Et je leur donne comme image quelquefois pour les rassurer et pour les encourager, celle de la chenille et du papillon. Une chenille contient tous les éléments qui vont être nécessaires au papillon. Elle en contient les cellules, elle en contient les couleurs même. Mais elle ne vole pas. Le moment où la chenille s'ouvre et où le papillon prend son vol, c'est-à-dire le moment où le scénario devient un film, où le papillon prend un vol que l'on espère aussi brillant et aussi long que possible, la peau de la chenille retombe à terre, d'où elle est venue, exactement comme le script finit dans les poubelles du studio. Mais quelque chose est né. Quelque chose d'autre est né de ce scénario que nous appelons un film et qui vient de prendre son vol. Donc c'est la première des conséquences de ce travail technique. Il faut que le scénariste comprenne bien que son travail ne durera pas, qu'on ne va pas encadrer ces pages, que très rares sont les collectionneurs de scénarios, il y en a quelques-uns au monde, mais ce sont des véritables maniaques, et en réalité ce sont surtout les cinémathèques qui recherchent quelquefois des documents de travail, parce que sur certains scénarios de grands metteurs en scène, il y a porté à la main des notations techniques qui rendent l'objet historiquement intéressant. Et la deuxième conséquence, première dont travailler dans l'éphémère, la deuxième c'est que il me semble que, et c'était en tout cas ma façon de travailler, que pour que Le Papillon, le film, ait la vie la plus longue et la plus passionnante possible, il vaut mieux travailler tout de suite et le plus tôt possible avec celui qui va devoir donner vie au papillon, c'est-à-dire avec le metteur en scène. C'est lui qui va mettre en vie, mettre en scène, mettre en place les éléments du scénario. Et ma technique a toujours été de demander au metteur en scène de travailler avec moi dès le début, dès l'origine, même s'il me dit qu'il n'est pas un auteur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va devoir opérer cette véritable transmutation alchimique, car il s'agit bien de passer du papier à de la pellicule ou à de la bande magnétique. Il s'agit réellement d'un transfert de matière, d'une transmutation. On parlait autrefois de la transmutation des métaux, en voici une. On écrit quelque chose sur du papier, il faut ensuite que ça devienne des images et du son sur un tout autre support, support chimique ou maintenant électronique. Il y a bien là quelque chose de si techniquement compliqué que ça en devient magique. Donc il vaut mieux travailler tout de suite avec, en face de soi, et c'est presque une exigence que je mets quand on me demande de travailler, celle ou celui qui va faire le film. Quand vous lui proposez quelque chose, une idée pour une telle ou telle scène, vous voyez tout de suite sur son visage quelle est sa réaction. S'il fait la moindre grimace, si quelque chose en lui, dans ce que vous proposez, ne lui plaît pas, ce n'est presque pas la peine d'insister. Car ou bien il ne le fera pas, ou bien s'il est obligé de le faire, si le producteur l'oblige à le faire, par exemple, il le fera mal. En revanche, si dans ce que vous lui proposez, quelque chose dans son œil s'allume, s'il se rapproche de vous, s'il se penche, si tout de suite il participe à ce que vous dites, s'il essaie de compléter la phrase que vous venez à peine de commencer, c'est très très bon signe. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui nous plaît déjà à tous les deux. Et je crois que c'est très souvent la phrase clé que je dis autour de moi, essayons de travailler sur le même film. Essayons de faire que ce que nous écrivons déjà, quand nous imaginons, puisque l'un et l'autre nous sommes des techniciens, comme je l'ai dit, nous imaginons déjà le film, que nous voyons le même film. Je vous donne deux exemples précis. D'abord, en ce qui concerne l'immédiate réaction de l'autre, certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai travaillé pendant 19 ans avec un grand metteur en scène espagnol qui s'appelait Luis Buñuel et qui a appartenu au groupe surréaliste et qui avait fait, évidemment, il était beaucoup plus âgé que moi et qui avait fait beaucoup de films avant de me rencontrer. Le premier film qu'il a fait, il l'a fait avec Salvador Dali comme co-scénariste et s'appelait Un chien andalou. Ils avaient comme règle absolue de travail, ce qu'ils appelaient le droit de veto. C'est-à-dire que quelqu'un raconte à l'autre une idée. L'autre a 3 secondes, et pas une de plus, pour dire oui ou non. S'il dit non, celui qui a proposé l'idée n'a pas le droit d'insister, n'a pas le droit d'essayer de vendre à tout prix son idée, il doit immédiatement la retirer et en chercher une autre. Pourquoi ces 3 secondes ? Pour empêcher à l'esprit rationnel d'intervenir, pour essayer de trouver tout de suite chez l'autre un contact obscur, profond, presque inconscient, dans lequel il va nous dire sa réaction naturelle, spontanée, sans réflexion. Si ça dure plus de 3 secondes, il pourra déjà rationaliser son oui ou son non et nous donner ainsi de fausses raisons. Et par exemple, dans les toutes premières scènes d'Un chien andalou, il y a une image de Buñuel restée très célèbre, celle d'un rasoir qui coupe en deux un œil de femme. Ça, c'était une image qui venait de lui. Et l'autre image est une main d'homme qui s'ouvre et qui est pleine de fourmis. Ça, c'était une image que Dali avait eue en rêve. Quand l'un a proposé à l'autre chacune de ces images, la réponse a été oui. C'est-à-dire qu'ils avaient établi immédiatement, à leur niveau inconscient, quelque chose qui fonctionnait entre les deux. Et ce n'est pas merveille si ces deux images ont traversé le siècle, comme parmi les plus célèbres qui soient, et si, quand on les voit encore aujourd'hui, qui que nous soyons, elles nous touchent très très fort. Donc ça, c'est ce contact avec le metteur en scène, conscient et surtout inconscient, est une des conditions qui me paraissent indispensables pour, je le dis, travailler sur le même film. Et de la même façon, là c'est un exemple plus personnel que je peux vous citer, de mon travail avec le même Buñuel, où nous avons essayé pendant 19 ans d'appliquer la règle que je viens de vous dire. L'autre est de vérifier de temps en temps si nous sommes dans le même film. Quand nous travaillons, nous sommes comme nous sommes en ce moment, c'est-à-dire que qui que ce soit d'entre vous qui me regarde, sa droite est ma gauche, et ma droite est votre gauche, puisque nous sommes face à face. Il y a des diagonales. Tous les cinéastes connaissent le problème des diagonales, qui est le problème fondamental au cinéma. Le problème des lignes à franchir subrepticement et quelquefois à violer. Donc, quand je vous propose une idée, je vous dis, on est dans un salon, il y a des personnages qui rentrent par la porte, saluent la maîtresse de maison, ils s'assiedent, un d'eux reste debout et va se chauffer les mains devant un feu qui est dans la cheminée. Inévitablement, vous voyez une image qui n'est pas forcément la même que la mienne. C'est-à-dire que dans la disposition même, certains d'entre vous peuvent voir les personnages entrer à gauche, d'autres à droite, etc. Tout peut... Donc il est bon de temps en temps de vérifier que nous sommes dans le même film. Et pour cela, nous avions une technique avec Buñuel que j'aimais beaucoup. Il se trouve que j'ai été dessinateur avant d'être auteur, donc j'ai gardé une certaine technique, bien que je n'ai pas assez de temps, bien entendu, pour être un véritable dessinateur. Mais le soir, par exemple, après une discussion de ce type-là, sur une scène où nous avions imaginé le dialogue, les actions, etc., je faisais un petit croquis rapide, quand j'étais tout seul dans ma chambre, de la scène du jour, disons, comme on pourrait dire le plat du jour. Et le lendemain, une des premières, j'en faisais deux ou trois croquis s'il y avait deux ou trois scènes, un des premiers travaux de la journée, le lendemain, consistait, je prenais les papiers comme ça, sans montrer les dessins, et je lui disais, je ne sais pas, par exemple, dans le champ discret de la bourgeoisie, par exemple, dans la scène des parachutistes, mettons, où se trouve la porte d'entrée? Alors, s'il me répond à gauche, et si sur le dessin elle est à gauche, ça veut dire que nous sommes dans le même film. Que nous avons surpassé, surmonté nos différences radicales de diagonale dans l'espace pour atteindre une autre dimension spatiale qui va être celle du film. Nous sommes déjà dans le film. En revanche, s'il a vu entrer les parachutistes à droite et s'il a vu la cheminée au fond à gauche, alors que moi je la voyais à droite contre le mur, là, nous avons encore tout un travail à faire. Le dessin peut nous y aider de la même manière que peut nous aider le travail en commun, c'est-à-dire que quand nous travaillons la plupart du temps dans une chambre d'hôtel ou dans une pièce, immédiatement se fait inévitablement une petite mise en scène, on déplace la bouteille, cette table peut devenir une table de salle à manger, ça peut devenir un lit, on se sert des éléments que nous avons pour jouer, pour montrer à l'autre déjà, hors de toute caméra et bien avant d'avoir le moindre matériel photographique ou d'enregistrement sonore, de montrer déjà à l'autre ce que telle ou telle scène que nous voulons d'imaginer pourrait être. Et pour cela, il n'y a pas d'autre méthode que de la jouer. Cette manière de jouer ensemble, de dessiner, toutes ces approximations qui quelquefois peuvent paraître très maladroites, très laborieuses, très recommencées 20 fois, 30 fois, peuvent lasser quelqu'un qui serait habitué, par exemple, dans le travail romanesque, à une inspiration quotidienne, solitaire, à sa table de travail, n'ayant pour juge que lui-même, n'ayant pour personne à qui dire et de qui écouter. personne d'autre que lui-même, ce qui est la fameuse et merveilleuse et dangereuse solitude du romancier. Tout ça, tout ce travail dont je viens de parler, qui va se suivre d'un autre travail d'adaptation technique, pourrait paraître absolument fastidieux. Il est pourtant indispensable, encore aujourd'hui. Je revois des scènes une scène dans Le Fantôme de la Liberté, par exemple, de Buñuel, où un personnage va voir un médecin, chose qui nous est arrivée à chacun d'entre nous, et le médecin a le résultat de ses analyses devant lui, une série de papiers comme ça, et notre problème était de savoir combien de papiers nous savions à la fin, bien sûr nous avions une idée du résultat, mais combien de temps le résultat était qu'à la fin, le médecin lui pose les analyses, lui dit écoutez, vous n'avez rien, vraiment tout va très bien, c'est parfait. Le personnage était très inquiet en venant, et le docteur lui dit il faudrait juste que je fasse, si vous voulez, c'est pas une opération, hein, mais nous appelons ça jeter un coup d'œil. C'est, on fait un petit trou dans la paroi, ici, il ne dit pas le ventre. C'est juste pour jeter un coup d'œil, c'est rien du tout, mais si vous voulez, et ça, j'aimerais bien le faire. Toute première inquiétude. Et le personnage dit, mais le faire, mais quand? Et le médecin lui dit, oh, ça, quand vous voudrez, demain par exemple. Ce demain, par exemple, commence à singulièrement paniquer le patient qui, finalement, 3 minutes après, apprend qu'il a un cancer du foie dans un état très avancé. Notre problème dans cette scène-là était combien de temps peut-on rester avec le médecin qui regarde les analyses et fait comme si tout allait bien. Et là-dessus, on a passé des heures, mais des heures, avec des petits bouts de papier, avec tout ce que un comédien peut donner, par exemple, ce geste-là, par exemple. Oui. Toutes les variations sont possibles. Et ce n'est qu'en le jouant, comme ça, et en le jouant, je vois encore Buñuel devant moi le faire 15, 20, 30, 40 fois de suite avant, de trouver le nombre exact, le rythme exact, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, ce qu'il va demander ensuite à son acteur, il l'a déjà longuement éprouvé avec son scénariste, dans l'intimité d'une chambre d'hôtel. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il va pouvoir improviser. C'est quelque chose qui sera le résultat d'un très long travail, d'abord d'invention, ensuite de préparation technique, et ensuite, quand tout cela sera fait, il faudra installer les lumières, placer les caméras, trouver le meilleur angle, savoir à quel moment on passe sur celui qui écoute, combien de temps on peut rester sur le médecin? Est-ce que le médecin devra, par exemple, garder les yeux baissés? Nous savons qu'il ment, hein, ou qu'il n'ose pas dire la vérité. Peut-il regarder vraiment son patient en face? Combien de temps? À quel moment? Toutes ces questions extrêmement précises se posent au moment même de l'écriture du scénario. Alors, toutes ces considérations, il faut que je me dépêche parce que j'ai encore tant de choses à vous raconter. Toutes ces considérations m'amène au deuxième paradoxe du scénariste. Le premier était donc qu'il travaille à une œuvre qui ne durera pas. Ce qu'il écrit va disparaître. Et le second, c'est que il doit donner tout son talent, s'il en a, tout son travail, toute son invention à l'œuvre d'un autre. Ça, c'est assez unique dans l'histoire de l'expression. Que tout ce qu'il peut apporter au film, il doit le donner au metteur en scène, dont ce sera l'œuvre, car c'est toujours un film d'eux. Alors, bien entendu, beaucoup de scénaristes ont protesté contre cette triste condition du scénariste, beaucoup de sociétés d'auteurs s'en sont émues, comme on dit, moi-même je fais partie de la SACD, je fais partie de la Writers Guild américaine, et c'est un problème, comme on dit, récurrent, qui se pose de tout temps. C'est l'assujettissement, ou comment on peut dire, l'obscurité, l'effacement dans lequel le scénariste est tenu par rapport au metteur en scène, qui lui a toute la charge et quelquefois tout le danger de la gloire. Alors je dis souvent que je réponds aux jeunes étudiants qui me posent cette question dans les écoles de cinéma, je leur réponds que c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est-à-dire rien ne vous oblige à être scénariste. Essayez de devenir metteur en scène si vous êtes attiré par la gloire. Ne faites pas trop attention à l'argent parce que le scénariste gagne en général plus que le metteur en scène. pour la raison très simple qu'il fait plus de films que lui. Quand un metteur en scène passe 2 ou 3 ans sur un seul film, le scénariste peut en écrire 3 ou 4, même s'il est moins payé à chacun d'entre eux. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de gloire et de renommée. Et à cela répond une question, enfin, dans cela se trouve la réponse à une question qu'on me pose souvent. On me dit souvent, vous qui avez pratiqué toutes les formes d'écriture, romanesque, théâtrale, télévisuelle, et même des images virtuelles, vous avez fait des librettes d'opéra, des disques, etc. Quelle est la plus difficile? Je dis qu'à coup sûr, la plus difficile est l'écriture cinématographique. Et pour 3 raisons. D'abord parce que, pour être un bon scénariste, il faut, comme dans toute espèce d'écriture, un certain don, une certaine disponibilité, quelque chose qui vous attire vers le plaisir de raconter de belles histoires à vos voisins et à vos semblables et même à vos dissemblables. Il faut ce don, ce talent, appelons-le comme on voudra. Il faut, comme dans toutes les autres disciplines, du travail. C'est absolument indispensable, mais ça on peut dire la même chose d'un auteur de théâtre, d'un romancier, etc., d'un musicien à plus forte raison, d'un compositeur. Il faut un énorme travail, une énorme patience, mais le scénariste a besoin de 2 autres qualités supplémentaires. La première, je vous en ai déjà parlé, il doit avoir des connaissances techniques. C'est-à-dire qu'il doit absolument être passé, et c'est mon cas, par tous les postes techniques d'une équipe. Il doit avoir participé à des tournages. Il doit savoir ce que c'est qu'une perche, comment on prend le son, comment on l'enregistre, qu'est-ce que c'est qu'un mixage, qu'est-ce que c'est qu'un éclairage, qu'est-ce que c'est qu'un découpage surtout, un découpage technique, qu'est-ce que c'est qu'une grosseur de plan. Il doit connaître tout un langage technique très complexe, non seulement très complexe, mais qui se complexifie, si j'ose dire, de plus en plus, qui est de plus en plus compliqué au fur et à mesure, justement, que les techniques s'élargissent, se précisent et se raffinent. Et la 4e qualité, qu'il est la seule à devoir posséder, et qui est peut-être la plus difficile de toutes, c'est une certaine humilité. Il doit être humble devant son travail, le scénariste de cinéma, c'est-à-dire qu'il doit savoir tout ce que je viens de vous dire. Il doit savoir que ce travail va disparaître, et que s'il reste, il sera à la gloire de notre. Alors, quelquefois, pour les consommer, je leur cite une phrase de Jules Romain dans le Docteur Knock, vous en souvenez peut-être, quelqu'un demande au Docteur Knock, mais quel est l'intérêt supérieur, ou quel est l'intérêt qui prévaut? Est-ce celui du médecin ou celui du malade? Et le Docteur Knock répond avec superbe, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là, et c'est l'intérêt de la médecine. Alors peut-être que à l'intérêt du metteur en scène et à celui du scénariste, il a un intérêt supérieur qui serait, dans ce cas, celui du cinéma. Je suis, moi, partisan, et j'ai toujours travaillé d'une autre façon, qui est le scénario dit, entre guillemets, nouvelle vague. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous considérons que le metteur en scène a sa propre personnalité, et quand je dis nous considérons, la loi française le reconnaît, et donne au metteur en scène la qualité d'auteur du film. Il est auteur au moins de sa mise en scène. C'est-à-dire que le même scénario, tourné avec les mêmes acteurs, tourné par 2 metteurs en scène différents, ne donnera pas le même film. Ce sera de toute manière 2 sensibilités différentes, et quelquefois totalement différentes. On a eu fait des essais sur des courtes scènes comme ça, confiées, on fait ça souvent dans les écoles de cinéma, confiées à 2 personnalités différentes. Le résultat est radicalement différent, quelquefois même à l'opposé. Donc, nous considérons depuis déjà 40 ans que le metteur en scène est co-auteur et quelquefois auteur à part entière du film. C'est pour cela, comme je vous le disais tout à l'heure, que la plupart du temps je travaille avec lui, que j'aime l'avoir en face de moi. Et c'est pour ça aussi que les scénarios que nous écrivons ne sont pas des objets techniques. Que le mot caméra n'y est presque jamais prononcé. Que les indications techniques sont quelquefois mises en note ou sur des feuillets séparés, et que l'objet que nous avons sous les yeux est un objet lisible, clair, qui peut parler directement au comédien, que d'autres personnes peuvent lire, et sur lequel le metteur en scène va pouvoir exercer à son tour une action de création. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais il est légal. Nous n'en connaissons pas d'autres. Donc, c'est dans l'idée qu'au moment du tournage du film, quelque chose se passe qui n'est pas simplement de la mise en boîte, qui n'est pas simplement l'enregistrement de la Bible et la transformation mécanique d'un objet écrit en un objet filmé, mais quelque chose va se passer qui est un véritable événement créateur, que les rapports du metteur en scène avec son décor, avec ses comédiens et avec son scénario va apporter quelque chose qui n'était peut-être pas encore totalement existant dans l'objet de papier que nous avons confectionné ensemble. Et qui, naturellement, l'objection que l'on me fait tout de suite, c'est que, oui, quelque chose pourra naître, mais quelque chose pourra aussi disparaître. C'est-à-dire que la mise en scène peut aussi détruire, et c'est arrivé quelquefois, ce qui existait ou les possibilités intéressantes qui existaient dans un scénario. De toute façon, quand on a participé à un scénario et qu'on voit le film réalisé, on a toujours une surprise. Cette surprise peut être bonne ou mauvaise, mais il y a toujours quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce que vous avez imaginé. C'est cette partie-là. Alors, je suis, moi, dans cette tradition. J'ai toujours aimé les metteurs en scène avec qui je travaillais, la plupart d'entre eux, des personnages comme Peter Brook ou Miloš Forman, que l'on citait, ou Buñuel, évidemment, bon, ou Jacques Tati, avec qui j'ai commencé, m'ont énormément appris, énormément apporté, surtout du point de vue technique. J'ai eu dans les relations que j'ai pu entretenir avec eux des moments privilégiés et des résultats souvent magnifiques. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Je sais que c'est difficile. Je sais que, en particulier, ça suppose que le scénariste, au départ, joue un rôle presque d'analyste. C'est-à-dire qu'il doit, moi, quelquefois, il m'arrive de passer une semaine ou deux à poser des questions à droite, à gauche, pas directement sur le scénario, pour chercher quel film le metteur en scène veut vraiment faire. Très souvent, le metteur en scène arrive avec un livre ou une idée, ou moi je lui propose une idée qu'il accepte, ou une idée qu'un producteur lui a donnée, comme ça, sur trois feuilles de papier. Mais quel est le film qu'il veut vraiment faire? Et ce n'est que par toute une série d'approches, quelquefois rusées, et quelquefois non dites, comme ça, qu'on arrive peu à peu à se mettre dans ce même train, l'un et l'autre, et à avancer à la même vitesse et à la même vapeur. Alors, quelques mots encore, si vous voulez, sur le travail même du scénariste. Là-dessus, on m'a posé toute ma vie beaucoup de questions. Comment faut-il travailler? Alors, je vous en ai déjà dit quelques mots au passage. Il me semble que, un peu comme dans tout autre travail, d'ailleurs, d'invention fictionnelle, un peu comme dans le roman, sans aucun doute, et le théâtre à coup sûr, c'est un travail qui procède par vagues. Il y a des vagues d'exploration qui peuvent aller très très loin, comme ça, où on cherche, on propose, quelquefois même un peu comme dans l'écriture automatique du surréalisme, des images, des idées venues sans explication. On débarque tout, on déballe, on propose à l'autre, comme ça, dans une grande vague, un peu comme la mer qui déferle. Et puis, il y a des vagues de réflexion. Il y a des vagues où on se retire, où on voit les objets que la mer a laissés, et on voit parmi ces objets ce qui nous intéresse. La plupart d'entre eux, on les jette, mais dans la vague d'exploration, il y a peut-être telle ou telle trace de pain, tel ou tel coquillage, tel ou tel brin d'algue que nous allons garder. Et on recommence. Ces vagues d'exploration et de réflexion n'ont pas du tout les mêmes durées. Certaines peuvent être très longues, durer des journées entières, et d'autres être au contraire très très brèves. Mais une chose est certaine, il me semble, d'après mon expérience déjà ancienne, c'est que ni l'exploration toute seule, ni la réflexion toute seule ne suffisent. Les deux sont indispensables. Ce mouvement d'ouvrir tout ce que nous pouvons avoir en nous de plus caché, de plus tortueux, de plus obscur est nécessaire, et ensuite de faire intervenir, et peut-être seulement à ce moment-là, rappelez-vous les 3 secondes de tout à l'heure, notre raison. Est-ce que ça s'accorde avec ce qui précède? Est-ce que ça prépare ce qui suit? Quel est le récit de l'action? Que sait le personnage à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Qu'est-ce qu'il vient d'apprendre? Comment ce qu'il vient d'apprendre peut modifier son comportement? Toutes ces questions qui sont de la dramaturgie pure et simple se posent à ce moment-là. Ça, c'est les deux vagues. Ces deux vagues peuvent se comparer aussi à deux attitudes. Et c'est d'ailleurs assez proche et que je pratique très souvent. L'une est de se considérer comme le premier spectateur du film qu'on est en train d'écrire. Alors, on est là, on est assis dans une salle de cinéma, on est en train d'écrire un film. Qu'est-ce que j'aimerais voir ? Qu'est-ce que j'aimerais que la prochaine scène me montre ? Qu'est-ce que moi, spectateur, qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive à ce personnage ou à celui-là ? Quelle surprise, quelle révélation, quel coup de théâtre je souhaiterais ? Je me maintiens en dehors du film et je le regarde comme si je le voyais déjà, je l'apprécie, je le critique, etc. L'autre attitude est l'inverse. Je rentre dans le film. Je me mets à la place de tel ou tel personnage, exactement dans la situation où il se trouve à ce moment-là, et je me dis, quelle serait ma réaction ? Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là ? Comment je réagirais à ce qui m'est dit, etc. C'est-à-dire que, là aussi, il s'agit d'un va et d'un vient. Je me suis d'abord à l'extérieur, je rentre dedans. Mais je ne peux ni totalement rester à l'extérieur, ni totalement rester dedans. Les deux mouvements me paraissent absolument indispensables et complémentaires l'un à l'autre. Enfin, une règle qui me paraît presque absolue et qui ne vaut pas du tout, et pas simplement pour le scénariste, mais qui valait déjà pour les conteurs d'autrefois, lesquels jouaient dans les sociétés, et jouent encore dans certaines sociétés, un rôle comparable au nôtre. Je ne me sens jamais aussi proche que quand je vais sur la grande place de Marrakech, par exemple, que je vois un conteur qui passe son tambour et qui appelle des gens pour leur raconter les histoires du jour. Je me dis, tiens, un collègue. Hein, au fond, nous faisons le même métier, mais avec des outils différents. C'est tout. Donc, je me dis, qu'est-ce que... Si j'avais quelques conseils à donner, et j'en ai, puisque je rencontre beaucoup de jeunes scénaristes, évidemment, je dirais que nous faisons avant tout travailler notre imagination, bien sûr. La raison n'intervient restrictive souvent, quelquefois castatrice, qu'elle n'intervient qu'après. D'abord, l'imagination doit se déchaîner, se développer, aller dans tous les sens. Je dirais deux choses sur cette imagination. D'abord, et ça j'en ai la preuve, c'est qu'elle est un muscle. Elle est comme la mémoire. Tous les acteurs savent très bien qu'on peut entraîner sa mémoire. Et que plus on l'entraîne, et mieux on l'apprend, et mieux on retient. Il en est de même pour l'imagination. L'imagination est une faculté de l'esprit qui peut s'entraîner, se développer exactement comme un athlète développe telle ou telle de ses possibilités. Quand nous travaillions avec Buñuel, nous avions pour règle d'or, tous les jours, tous les soirs, avant de passer à table, de passer une demi-heure chacun dans nos chambres, et pendant une demi-heure, d'inventer une histoire que nous allions raconter à l'autre en prenant l'apéritif. C'était un entraînement de l'esprit, pour dire à l'esprit, attention, tu es au boulot, tu es en alerte tous les jours, tu n'as pas le droit de t'endormir, tes facultés réductrices, mets-les de côté, nous allons te solliciter encore et encore, nous avons un très puissant cerveau, mais qui ne demande qu'à s'endormir, nous le savons tous, et quelles que soient les professions que nous exercions, nous devons absolument le maintenir en activité, en alerte, mais le menacer de ceci ou de cela, s'il n'obéit pas, s'il ne trouve pas. Donc, l'imagination est quelque chose que l'on peut faire fructifier, que l'on peut développer, et quand on la développe, on s'aperçoit qu'elle est sans limite. On s'aperçoit que les vieilles règles de la dramaturgie bourgeoise du 19e siècle qui disaient qu'il y avait un nombre limité de situations dramatiques ont depuis longtemps volé un éclat. Et le surréalisme les a dispersés. Il s'agissait en réalité, pour la société bourgeoise qui se mettait en place, de tout organiser, de tout dire, de dire que l'on pouvait tout réglementer, mettre en catégorie, ranger dans des petits tiroirs, y compris les inventions découvertes et folies de l'imagination, ce qui est impossible. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut voir cette tentative. Ce n'est pas vrai du tout qu'il y a un nombre limité d'inventions dramatiques. Je pourrais prendre cette bouteille d'eau minérale, ce micro, ce bouchon que je manipule, je ne sais pourquoi depuis un moment, mes lunettes, et inventer quelque chose qui, et vous de même, qui n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui, qui serait une situation dramatique, entre guillemets, nouvelle. Elle se rattacherait bien entendu à des socles anciens, mais que peut-être nous ne connaissons pas. Donc, l'imagination est un muscle. Elle est sans limite. et elle est, je voudrais finir peut-être là-dessus, elle est innocente. C'est-à-dire que nous avons tous été élevés dans une civilisation judéo-chrétienne où existe un péché qu'on appelle le péché d'intention. C'est-à-dire qu'on peut commettre un crime, mais l'idée même de commettre le crime, même si on ne le fait pas, même si on ne passe pas à l'acte, l'idée est déjà un péché vénial, mais un péché qu'il faut confesser, qu'il faut dire au prêtre. Alors, si le scénariste en est là, il est foutu. Il ne fera jamais un bon travail. C'est-à-dire que le scénariste, comme l'auteur de théâtre, comme évidemment le romancier, doit s'ouvrir le plus possible à la canaillerie qui est en lui, à la malhonnêteté, au mensonge. Buñuel disait que, il me disait un jour en riant, chaque scénariste doit chaque jour tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Tous les jours, c'est son devoir, est sous des verres. S'il ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Et nous n'aurions ni Shakespeare, ni Dostoïevski. Il faut bien comprendre que très souvent, on voit, et particulièrement chez les jeunes, on voit des visages se fermer, des poitrines se resserrer, des imaginations s'éteindre, parce qu'elles n'osent pas aller au fond d'elles-mêmes. Elles n'osent pas ouvrir et trouver en nous ces parties obscures, dangereuses, troublées, qui sont absolument nécessaires à toute œuvre intéressante. Voilà.
La conférence que vous venez d'entendre a été donnée à la Bibliothèque nationale de France le lundi 3 juin 2002 par Jean-Claude Carrière. Elle s'intitulait « Le scénariste, conteur d'aujourd'hui ». Demain, Jean-Claude Carrière nous parlera de l'Inde, continent du multiple et du flexible. Réalisation, Malika Mezgache. Retrouverez Pierre Assouline.
Chacun est bienvenu sur France Culture en ce lundi 22 juillet, première édition. Le programme en ce début de matinée à 7h15, ce sera les disputes d'Antoine Mercier. À 7h20, vous retrouverez les enjeux internationaux avec Thierry Garcin. À 7h30, le psychanalyste Jean-Claude Lyodet pour parler des rapports père-fille. À 8h05, comme chaque lundi, la chronique de Dominique Schnapper. Et vers 8h10, nous accueillerons l'historien Pierre-Marie Dieudenat qui publie une enquête généalogique très fouillée sur la fausse noblesse ou la noblesse d'apparence. Mais tout de suite, 7h sur France Culture, le journal vous est présenté par Philippe Lefébure. Bonjour Philippe.